With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Pourquoi un bon entraînement passe par une meilleure connaissance de l'équilibre de notre corps? Et bien c'est le sujet de cette première minute perf. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf, plutôt premier numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider encore plus à progresser. Avec Laure, nous vous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et dans cette première édition de la Minute Perf, nous parlons d'homéostasie. Ce terme ne vous dit peut-être rien, et pourtant ce principe régit notre corps, puisque c'est tout simplement sa capacité à maintenir son équilibre quelles que soient les contraintes externes. Oui, on est fait comme ça. Notre corps est fait pour maintenir l'équilibre. Et justement, avec Laure, nous allons voir pourquoi ce principe est important pour l'entraînement. Car l'entraînement fait justement partie des contraintes auxquelles le corps va devoir s'adapter. Une fois que vous aurez compris ce principe, vous comprendrez peut-être mieux vos plans d'entraînement, comment progresser pour devenir champion du monde et championne du monde de votre monde. Allez, c'est parti. Bonjour Laure.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Bah écoute, je vais super bien. Et toi?
Ah mais super bien. En plus, tu sais, je suis super content parce que je t'ai envoyé des petits messages. On a eu des super retours sur l'épisode qu'on a enregistré la semaine dernière, qu'on a diffusé la semaine dernière, qui pour nous était diffusé hier, hein, jeudi, hein, dans les coulisses, on a jeudi. Donc, mais j'ai vu plein de messages et je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Les gens ont beaucoup apprécié en fait la complémentarité, d'avoir un peu un autre point de vue, d'avoir ton point de vue. Puis tu sais, alors comme je te le disais, moi je suis le débutant enthousiaste, alors un peu moins débutant mais toujours enthousiaste. Et puis toi, t'es plus cadré, t'as plus de scientifisme dans ta démarche. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, ça me va bien parce qu'aujourd'hui on va aborder un thème qui est super intéressant, qui est super important, mais que pourtant, je pense que plein de gens ne connaissent pas. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, j'en suis convaincu aussi, ouais.
Ouais. Et ce thème, en fait, c'est l'homéostasie. C'est le thème de notre première Minute Perf, l'homéostasie. Mais alors, moi, tu me dis homéostasie, je sais un petit peu ce que c'est, mais en fait, je vais faire comme si je ne savais rien du tout de ce que c'était. C'est quoi l'homéostasie?
Alors déjà, Bertrand, juste avant de commencer, merci pour ces partages sur le podcast. L'enthousiasme, je l'ai aussi. J'espère que ça s'entend. Ça ne se voit pas, mais ça s'entend dans ma voix. Donc, je suis très heureuse de commencer cette minute perf sur l'homéostasie. On va s'interroger sur l'homéostasie parce qu'on a décidé tous les deux avec Bertrand que c'était un point de départ très important pour nous tous en tant que sportifs. Parce qu'on considère qu'en fait, ça va être le point de départ de notre réflexion et ça va être aussi le point de départ de plein d'épisodes de la Minute Perf. Donc, en quelque sorte, ce premier épisode, il est structurant et il est important. Mmh. Alors, on va partir d'une définition générale sur l'homéostasie. Hein. C'est, d'un point de vue général, c'est la capacité d'un système à maintenir un équilibre, que ce soit dans son milieu intérieur ou par rapport à des contraintes externes. Globalement, l'idée, c'est quoi? C'est que tous les systèmes ont une tendance à revenir à un état d'équilibre parce que tous les systèmes biologiques laissent les déséquilibres. Donc nous, si on l'applique un petit peu au corps, en biologie, on peut considérer que l'homéostasie, c'est un phénomène par lequel on va maintenir des valeurs de référence. Typiquement, on peut penser à des choses qu'on connaît tous, hein. La glycémie, on sait que notre glycémie, il faut qu'elle soit comprise entre 0,8 et 1,20 grammes par litre de sang. On peut penser à d'autres choses comme la pression sanguine, comme l'acidité du milieu. Si on était dans un corps trop acide ou trop basique, on ne pourrait pas vivre. Et ben c'est ça l'homéostasie. Et en fait, donc globalement, c'est la capacité d'un système à maintenir un ensemble de facteurs clés pour permettre le bon déroulement de ces systèmes.
Mais alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que notre corps, par défaut, il est fait pour aller vers l'homéostasie, pour être toujours à l'équilibre. Enfin, lui, il se débrouille dans tous les cas pour créer de l'équilibre, non, si je ne me plante pas.
C'est exactement ça, Bertrand. T'as tout à fait compris et résumé les choses. En fait, au départ, pour être en bonne santé, il faut être dans un état d'équilibre. D'ailleurs, si on prend des grandes fonctions comme rien que l'alternance de sommeil et de veille, on est dans une forme d'homéostasie. Lorsqu'on manque de sommeil, on est en déficit de sommeil chronique. On en a parlé dans le dernier épisode. Et donc, c'est pas bon. Donc la question finalement que tu insinues à travers ça, c'est pourquoi on s'intéresse à l'homéostasie, nous en tant que sportifs. C'est ça, hein, si je comprends bien.
En fait, c'est-à-dire que moi, je me dis, de toute façon, le corps, il est super bien foutu. Il nous met à l'équilibre. Alors d'ailleurs, on a des organes hein, qui sont spécifiques parce que j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur le diabète et on rappelait que le pancréas, quand il ne marche pas, bah, c'est lui qui notamment fait que l'équilibre sur la glycémie se fait ou ne se fait pas. Hein. On a un exemple vraiment type hein, avec le diabète hein, sur ces histoires d'équilibre et dire qu'il y a des organes qui sont spécifiques pour ça et que si tous nos organes qu'on a dans le corps, ils sont aussi faits pour ça, pour équilibrer et ils servent à quelque chose hein, s'ils sont tous là. Mais donc, pourquoi, à un moment donné, en tant que sportif, on va aborder ce thème de l'homéostasie parce que ça voudrait dire que à un moment donné, on déséquilibre cet équilibre.
C'est exactement ça. En fait, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est finalement, qu'est-ce qui se passe pour nous en tant que sportifs dans le processus dans ce processus homéostatique, pardon.
C'est dur à dire. Hein.
Bah en fait, ouais, c'est dur. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, la base de l'entraînement, c'est ce qu'on appelle la charge d'entraînement. Et donc, en fait, quand on s'entraîne, on fait subir à notre corps des contraintes, ce qu'on appelle la charge d'entraînement. Donc, on le verra peut-être un petit peu plus tard, mais globalement, la charge d'entraînement, elle est composée de plusieurs paramètres. Et notamment, en fait, la charge d'entraînement, elle va être constituée par plusieurs stimuli qui vont infecter notre corps. Donc, l'idée, en fait, la charge d'entraînement, bah, si on fait simple, c'est tout ce qui est exécuté par le sportif. Donc, globalement, la charge d'entraînement, elle est composée de facteurs intensité, temps, durée, nombre de répétitions. En gros, c'est la charge de travail. C'est la totalité du travail que l'on fait dans une séance et donc, par définition également aussi, sur la répétition des séances. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, on se dit que quand on s'entraîne, on induit à notre corps des contraintes, donc on lui impose une charge d'entraînement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est cette charge d'entraînement qui est nécessaire à nos progrès et à l'amélioration de notre performance. Pourquoi? Parce que bah, l'entraînement, il induit des adaptations physiologiques. On en a déjà parlé, physiologiques et psychologiques. Quand je dis on en a déjà parlé, c'est dans le podcast qu'on a enregistré ensemble la semaine dernière. L'idée, c'est ça, en fait. C'est que la contrainte va obliger notre corps à restructurer des choses en mieux. C'est ça le but de l'entraînement. Donc, deux niveaux de restructuration. Il y a un premier niveau de restructuration à l'état normal, c'est-à-dire c'est simplement la régénération, la récupération. Donc là, à ce moment-là, on va reconstituer des ressources à l'identique, au même niveau que celles qu'on avait avant. Mais tout l'intérêt de l'entraînement, en fait, c'est justement ce qu'on appelle un phénomène de surcompensation qui caractérise en fait le fait d'élever ces niveaux de ressources à un niveau supérieur au niveau précédent l'entraînement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Pourquoi on fait le lien avec l'homéostasie? Bah, tout simplement parce que quand on s'entraîne, on déséquilibre le corps. On affaiblit le corps en termes de fatigue physique, musculaire. Donc, on va demander au corps notamment d'aller puiser, que ce soit les fonctions biologiques ou même quand on casse des fibres musculaires. Lorsqu'on s'entraîne, on casse tout un tas de fibres musculaires, c'est pas grave. Au contraire, cette casse de ces fibres musculaires, la récupération va faire que derrière, on va les régénérer au-dehors de leur état initial. Et donc, typiquement, en fait, bah, on voit bien que par l'entraînement, on va affecter ce processus d'homéostasie et ce processus d'équilibre dans notre corps. De la même manière, hein, lorsqu'on s'entraîne, tu parlais de la régulation de la glycémie tout à l'heure, lorsqu'on s'entraîne, bah, typiquement, on va affecter ce mécanisme de glycémie. D'ailleurs, on peut parler d'un phénomène hein, qui s'appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Qui se passe souvent à l'effort, c'est un bon exemple. Si on consomme trop de glucose dans les trois quarts d'heure qui suivent un effort physique, bah en fait, notre corps, étant donné qu'il va sécréter de l'insuline, et qu'en plus, on va démarrer l'effort, parce que quand on démarre un effort, en fait, le corps, il a tendance à sécréter de l'insuline. Pourquoi? Parce que l'insuline, c'est la petite hormone qui va faire qu'on va capter du glucose dans le sang pour l'emmener vers les cellules, donc pour faire fonctionner les cellules. Donc, on comprend bien, en fait, que clairement, l'insuline, elle est nécessaire au bon déroulement de l'activité physique. Et donc, on voit bien qu'il se passe un double phénomène de captation du glucose dans le sang. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, dans le sens où il y a une réaction qui est très grande. Et donc, c'est pour ça qu'on déconseille aux sportifs de consommer des glucides dans les trois quarts d'heure qui précèdent un entraînement. Parce que sinon, on se retrouve en fait avec tout de suite une baisse d'énergie, tout de suite un coup de mou. Et derrière, bah, c'est compliqué de restaurer cet équilibre et cette homéostasie pendant l'effort. On en a aussi parlé il n'y a pas très longtemps ensemble, hein, Bertrand, quand on parle des index glycémiques, c'est aussi ça l'idée en fait. Les index glycémiques, le but, c'est de créer une homéostasie, de créer une régularité des taux d'insuline et des taux de glucose dans le sang pour faire en sorte qu'on n'ait jamais de trop haut et de trop bas. Parce que c'est ce qu'on disait, notre corps est bien fait. C'est une chose. Malgré tout, le but, c'est d'aider notre corps à rester le plus longtemps possible dans un état de d'homéostasie.
Ouais, j'ai une question quand même, tu vois. C'est, parce que finalement, est-ce que tout entraînement crée un déséquilibre ou est-ce qu'en fait, il faut quand même y mettre une certaine dose?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, on va distinguer deux formes d'entraînement. On va distinguer des entraînements qui vont faire appel à ce qu'on pourrait appeler juste une mobilisation des ressources, un engagement des ressources. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, le niveau de contrainte qui va peser sur nous sera plus ou moins égal à notre niveau de ressources. C'est ce qu'on va faire quand on va faire ce qu'on appelle de l'entretien de soi.
Ouais.
Quand on fait de l'entretien de soi, qu'on va courir un footing une fois par semaine ou deux fois par semaine, ben, le niveau de contrainte qu'on fait peser sur nous, il n'est pas suffisant pour élever notre niveau de ressources. Donc on va distinguer justement ce niveau-là de mobilisation des ressources avec un second niveau qui va être un niveau de développement des ressources. Et pour développer des ressources, ben, y a une condition sine qua non à au développement des ressources, c'est le fait que le niveau de contrainte qui pèse sur l'individu soit temporairement supérieur à son niveau de ressources à ce moment-là. Mmh. Donc, l'idée de l'entraînement, c'est justement ça, c'est que la charge d'entraînement vienne impacter le développement et la mobilisation des ressources au-delà du niveau de ressources actuel. Autrement, c'est un entraînement qui se doit d'être difficile. On parle beaucoup hein, en ce moment, c'est un mot qui est à la mode, hein, de la zone de confort. Et ben, typiquement, on peut distinguer l'utilisation des ressources du développement des ressources avec cette idée de zone de confort. Lorsque je vais faire un footing en endurance fondamentale, globalement, je suis à 70 pour VMA, je cours une heure, je suis dans ma zone de confort. Je suis capable de parler, on en parlait, hein, c'est vraiment un footing qui est agréable, je peux regarder le paysage, etc. À partir du moment où on commence à rentrer dans une zone qui est plus difficile, dans laquelle on a une pénibilité de l'effort qui s'installe, alors là, on va vraiment venir puiser dans nos réserves. Donc, on va venir affaiblir notre système, nos fonctions biologiques, nos fonctions musculaires, etc. Et c'est là où, en fait, on va réellement développer les ressources par ce phénomène d'épuisement.
Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est finalement, pour qu'on en parle, c'est que c'est là où on voit que le corps s'adapte, finalement. Nous, on lui impose un truc, et puis il se dit, bah, même moi, il faut que je rééquilibre. Et que je rééquilibre pour être capable de le faire mieux, ou en tout cas de répondre à la demande la prochaine fois, être en mesure de le faire. Et c'est aussi pour ça qu'on parlait l'autre jour, hein, qu'il faut s'entraîner à 105% de VMA si on veut gagner en vitesse, qu'il faut allonger les distances dans certains cas, on pourra en parler, parce que j'écoutais dans Sport Nutrition l'épisode qui sort, on parlait aussi notamment de l'entraînement à manger plus de glucose quand on est sportif, qu'on sait qu'on va devoir ingérer ça. Tout ça, en fait, c'est de se dire, il faut qu'on entraîne le corps à trouver les équilibres dans des situations où pour l'instant il ne sait pas encore le faire.
C'est exactement ça. Il y a un autre exemple qui peut être aussi qui peut illustrer, qui peut parler à tout le monde. C'est un petit peu notre mémoire immunitaire. C'est-à-dire que quand on est affecté par un virus, le virus va venir épuiser notre système immunitaire, il va venir le solliciter. Mais derrière, en fait, notre système immunitaire, il va garder en mémoire la trace du virus qu'on aura eu. Et donc, il va être capable de répondre la prochaine fois plus rapidement, plus efficacement. Là, c'est un petit peu la même chose avec la charge d'entraînement et le processus d'entraînement. C'est qu'en fait, le corps garde une mémoire de tout ça et le corps, il a vocation surtout à être beaucoup plus fort, à se renforcer. Donc, si on lui met une charge d'entraînement à un moment donné, il va se dire, oulala, peut-être qu'il va continuer comme ça. Donc, le but, c'est d'être capable de subir cette charge et d'encaisser cette charge pour être plus fort et plus performant à l'avenir. Donc, on peut distinguer, en fait, deux types d'adaptations dans le corps. Ça me semble important de le souligner. Il y a ce qu'on appelle l'adaptation aiguë, qui va correspondre finalement simplement à la mise en jeu des processus de récupération et de rééquilibration. Donc, c'est ce dont j'ai parlé, hein. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire on mobilise nos ressources. Je rentre d'un footing où j'ai juste mobilisé mes ressources. Et ben, il y a ce phénomène d'homéostasie qui va faire que je vais simplement revenir à l'équilibre. J'ai épuisé mes stocks de glycogène, j'ai fait travailler mes fonctions cardio-respiratoires, etc. Mais globalement, pas au-delà d'un certain seuil. Donc ici, je vais simplement faire ce qu'on appelle une adaptation aiguë. Je vais simplement refaire des réserves qui ont été épuisées. Et voilà. Et après, il y a un deuxième phénomène qui nous intéresse en tant que sportif, c'est cette idée d'adaptation chronique. Et c'est celle qu'on recherche. C'est-à-dire, en fait, c'est l'épuisement progressif des ressources pour construire une progressivité de plus en plus importante. Donc l'idée, là, c'est vraiment de la modification des fonctions de l'organisme, que ce soit des fonctions biologiques, physiologiques. Et l'idée, c'est en fait, c'est par la répétition de ces sollicitations, l'organisme va ce qu'on appelle surcompenser, c'est-à-dire il va passer au-delà des niveaux de ressources qu'il avait au départ, quoi.
Mais c'est intéressant parce que ce terme de surcompensation, on l'entend, mais combien de fois on entend les coachs qui disent, oh, là, on fait la surcompensation, etc. J'ai quand même une question sur la surcompensation parce que aujourd'hui, j'étais étonné par quelqu'un qui faisait la surcompensation juste avant de courir un marathon ou un semi-marathon. J'étais un peu étonné parce qu'il y a un temps pour que ces équilibres se reforment, que le corps, finalement, il surcompense. Est-ce qu'il y a un temps particulier ou alors, peut-être que la réponse n'est peut-être pas généraliste et peut-être liée, en fait, tu vas me dire peut-être que ça dépend, hein, en me disant peut-être qu'un tendon, un muscle, que le mental ou je sais pas quoi, parce que ça concerne tous les ingrédients tous les facteurs de performance, de toute façon, ces histoires d'équilibre. Est-ce que on a un temps ou est-ce que c'est pas si facile que ça à dire il faut 3 jours, 4 jours, 2 mois ou je sais pas combien?
Alors, on peut anticiper pour faire très simple et très, très schématique parce que ça, sinon après on est dans des phénomènes qui sont assez complexes. On va anticiper de manière de... Le processus de surcompensation, c'est toujours le même. C'est vraiment cette idée que les ressources vont passer au-delà de leur niveau initial par le fait qu'elles ont été épuisées initialement. Bon. Ça, c'est une réalité. Et voilà. Derrière, on peut envisager deux manières d'utiliser cette surcompensation, telle que tu le dis très bien. Dans un cas, on va l'utiliser pour s'entraîner, donc pour être plus performant. C'est ce qui va faire tout simplement qu'on progresse, en fait. Donc, dans un premier cas, on va utiliser le phénomène de surcompensation de manière temporelle, dans la durée, pour faire en sorte d'augmenter petit à petit ces niveaux de ressources. Mais on peut aussi, effectivement, tel que tu le dis très bien, juste avant une échéance, que ce soit un marathon ou un 10 km d'ailleurs, utiliser ce processus de manière intelligente, dans le sens où, puisque chaque niveau de ressources, on pourrait dire, c'est comme ça qu'il faut l'envisager, chaque type de filière énergétique va surcompenser à des moments différents. C'est pour ça, notamment, que dans les plans d'entraînement vers la fin et sur la dernière semaine d'avant, en fait, on a beaucoup de phases de repos, mais aussi beaucoup de séances différentes. On refait des allures rapides, on refait des allures un peu plus lentes. Pourquoi ? Le but, c'est tout simplement parce qu'on sait que, comme tu l'as très justement dit, on ne va pas surcompenser de la même manière sur des choses comme la régénération des tendons, des muscles, etc. Ça ne va pas prendre autant de temps que de régénérer des stocks de glycogène qui vont se faire en 24 ou 48 heures. Donc, le but des plans d'entraînement sur la dernière semaine, c'est justement de faire ce qu'on appelle une surcompensation croisée. C'est-à-dire qu'on va venir interroger la temporalité des différents types de surcompensation pour créer une sorte de maxi-surcompensation. Je ne sais pas si je m'explique bien, je ne sais pas si c'est clair la manière avec laquelle je veux l'expliquer, mais globalement, l'idée, c'est que chaque processus biologique ne va pas surcompenser à la même vitesse. Et donc, si le plan est bien fait, en fait, on va faire surcompenser pour que tout arrive le même jour. Donc, on va faire, comme on sait que, par exemple, la vitesse, elle met moins de temps à surcompenser que l'endurance. C'est pour ça que la dernière sortie longue, souvent, on la fait une semaine avant. Je pense notamment à un plan sur le marathon. Et la veille ou l'avant-veille, on va aller faire un petit peu de vitesse avec des lignes droites et tout, parce qu'on sait que ce principe de surcompensation, il va se faire plus rapidement dans le temps. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette double utilisation de la surcompensation. Sachant que ici, l'idée, c'est une surcompensation qui est temporaire. Hein. C'est simplement utiliser, surfer sur la vague un petit peu. Et c'est une bonne image, puisque la surcompensation, on peut vraiment l'envisager comme dans un schéma avec une vague et on est en haut de la vague, quoi.
Mais c'est super intéressant parce que là, d'un coup, il y en a plein qui viennent de comprendre leur plan d'entraînement, marathon, course ou je sais pas quoi, en disant mais c'est bizarre ces dernières semaines, faut que je me repose. On dit il faut se reposer pour faire du jus, puis on peut faire des lignes droites, on peut faire des accélérations. La dernière séance longue, elle est quand même un petit peu lointaine. Moi, ça me démange un petit peu les jambes d'en faire un peu plus, mais en fin de compte, s'ils ont été faits comme ça, c'est parce que pour jouer justement avec ces phénomènes-là, quoi.
Et alors, on va parler d'un autre, tu fais bien de dire ça, c'est qu'on a oublié quand même de parler du phénomène de surcompensation aussi psychologique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier le fait que nos préparations, nos plans d'entraînement, que ce soit sur marathon ou sur 10 km, ils sont aussi épuisants d'un point de vue psychologique. C'est dur. J'écoutais le podcast avec Frédéric sur le 100 km de Millau. On sentait qu'au bout d'un moment, le rythme des semaines qui revenait tout le temps, c'était usant pour lui. Il l'a très, très bien verbalisé. Et donc, il faut aussi envisager ce phénomène de surcompensation psychologique. Donc, tel qu'on peut le décrire sur le fait de répéter des séances difficiles, il a évoqué un truc qui m'a marqué, le fait qu'il a pris un pont, il a réussi à faire 500 mètres de dénivelé positif en 30 km en prenant juste un pont et en faisant des allers-retours pendant 30 bornes. Je trouve ça assez incroyable ce qu'il a fait. Et typiquement, c'est une séance dans laquelle en fait, il a épuisé ses ressources psychologiques, il s'est entraîné à épuiser ses ressources psychologiques pour modéliser ou refléter au plus proche ce qu'il va vivre pendant le 100 km. Donc là, on est typiquement dans l'entraînement des ressources psychologiques, donc l'épuisement des ressources psychologiques. Et derrière, on est sur le même phénomène, c'est-à-dire que quand on sort d'une séance comme ça, on est hyper content. Parce qu'il y a une forme de fierté à avoir pu faire une séance comme ça, un petit peu de hamster. C'est très, très difficile pour le mental d'accepter cette idée qu'on va répéter, répéter, répéter sur une boucle très, très fermée. Donc, il y a cet entraînement psychologique. Et donc, on comprend aussi dans les plans que bah, parfois, certaines séances ont aussi vocation. Alors, pas que, hein, bien sûr, on va d'abord construire des séances d'abord par rapport à la physiologie de l'effort. Mais malgré tout, le fait de placer des séances comme ça, parfois difficiles, des séances de côte, ce qu'il a appelé lui des séances de montée-descente. Là, j'ai découvert aussi ce concept de Bruno Huby qui est super intéressant. Ça, typiquement, on peut envisager que d'un point de vue de l'homéostasie psychologique et de la perturbation des ressources psychologiques, c'est très intéressant. Et de la même manière, tu as dit quelque chose de très juste il y a quelques minutes en disant on a envie, en fait, dans le plan d'entraînement, la dernière semaine, on a envie d'y aller. Et bien, moi, je dis toujours ça aux athlètes, je leur dis toujours qu'il faut susciter l'envie de courir. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que quand on est épuisé et qu'on n'a plus envie d'y aller, c'est pas bon signe. Il faut toujours prendre le départ d'une course avec cette envie, cette patate d'enfant, voilà, ce smile au fond de nous, avec vraiment cette grande envie d'aller courir. Et il n'y a rien de pire que d'aller faire une séance à reculons, et il n'y a rien de pire surtout que d'aller faire une course à reculons. Et moi, mon maître mot, c'est vraiment de dire ça. Il faut susciter l'envie de courir. Il faut avoir à un moment donné cette disponibilité intellectuelle et cette envie entre guillemets, de croquer la course et d'en profiter à fond. Bah, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que typiquement, ici, on est dans un phénomène de surcompensation psychologique, si on veut imaginer un petit peu les choses.
Bon, bah, écoute, tu sais, moi, je trouve que tu as été extrêmement clair. J'ai envie de dire, tu sais, c'est vraiment la question comme ça, les gens qui... Moi, tu vois, je me dis, bon, en ce moment, on va en parler bientôt, hein, de la période dans laquelle on est. On réserve ça pour une prochaine minute perf, mais on se dit, dans ma semaine, tu vois, je veux faire... des séances pour maintenir mon niveau, tu vois, etc. On a bien vu que finalement, si je me contente de faire toujours la même chose, bah finalement, l'adaptation va être de rééquilibrer et de pas de faire progresser, hein, mais qui peut être aussi une période de l'année. On peut se dire, bah, je veux maintenir mon niveau et donc je suis dans un maintien de l'équilibre qui est peut-être plus simple pour le corps à faire. Et puis quand je veux préparer quelque chose et progresser sur des temps, je vais aller dans la recherche de choses qui sont plus compliquées, justement, pour aller dans une compensation, une surcompensation qui va me faire progresser. J'ai juste là-dessus.
Ouais, complètement, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on disait aussi tous les deux dans le précédent épisode qu'on a enregistré ensemble. C'est toujours cette idée d'objectif. Quel est mon objectif, en fait? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de s'entraîner. Il n'y a qu'une bonne ou une manière de s'entraîner à partir de l'objectif qu'on se fixe. C'est-à-dire que si mon objectif, c'est simplement de m'entretenir, et moi, j'ai des périodes de ma vie où, clairement, je ne fais que courir pour courir, parce que courir 1 heure par jour, ça me permet de me vider la tête et de m'aérer l'esprit, et ben, il n'y a pas de problème, en fait. Et à ce moment-là, clairement, on dit qu'au final, on commence à vraiment un petit peu taper dans les processus physiologiques à partir de 3 séances par semaine avec des intensités. Là, on commence à vraiment rentrer dans des adaptations physiologiques, l'exercice, c'est ça le mot scientifique. Après, quand on fait des footings à endurance fondamentale une à deux fois par semaine, très clairement, on est dans l'entretien, en fait. Mais de la même manière, c'est-à-dire que quand je vais courir tous les jours, comme tu as pu le faire aussi, Bertrand, comme tu peux le faire souvent, si tu cours à des allures très faibles, bah, au final, tu seras simplement dans la mobilisation de tes ressources. Et tu seras dans une forme d'homéostasie parce qu'en fait, ton corps, il se sera habitué un petit peu à cette manière de le solliciter. C'est aussi pour ça qu'on parle d'entraînement basé. Parce que tout le but de l'entraînement, c'est de régler le corps, en fait. C'est de le prendre par surprise et de dire « Coucou, bah, tu ne l'avais pas vu venir ». Et c'est un peu ça aussi le processus de surcompensation. C'est le fait de surprendre le corps, et l'esprit, hein, d'ailleurs, et lui dire bah, « Tu vois, celle-là, tu ne l'avais pas vu venir, bah, elle est là. Et c'est maintenant qu'on s'adapte et c'est maintenant que tu vas te régénérer autrement ». Donc effectivement, on peut s'entraîner, on peut avoir un objectif de performance avec des manières de s'entraîner particulières et à l'inverse, simplement un objectif d'entretien de soi. Et voilà, mais ça pourrait faire l'objet d'un épisode. Comment on s'entretient, comment on s'entraîne, à partir de quand on peut considérer, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, pour faire très très simple, il faut interroger en fait la nature de la charge d'entraînement et on pourra peut-être en discuter plus tard. Mais globalement, l'entraînement, il doit être spécifique Il doit être individualisé, il doit être progressif, il doit être régulier. Il y a tout un tas de principes comme ça qui ont été écrits sur l'entraînement. Alors au départ, c'était un petit peu l'école russe hein, qui avait un petit peu défini tout ça. Aujourd'hui, ça a été un petit peu revu. Globalement, en France, on a des personnes qui travaillent très très bien là-dessus. Hein. On peut citer les travaux de Michel Pradet, on peut citer les travaux de Véronique Billat, qui sont des personnes qui ont beaucoup écrit sur l'entraînement, si nos auditeurs veulent aller plus loin. Et on a des principes d'entraînement. Après, on pourra tout à fait faire un épisode qui rentrera plus en détail là-dessus, qui nous permettra de comprendre un peu mieux comment s'entraîner et comment structurer son plan d'entraînement.
Alors, j'ai quand même la dernière question, c'est et si le corps n'arrive pas à rétablir l'équilibre, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, le corps qui ne rétablirait pas l'équilibre, ça serait de l'ordre du, entre guillemets, de la pathologie, avec des gros guillemets, hein, c'est-à-dire un corps qui ne va pas... revenir à un état d'équilibre, c'est un corps qui est tellement fatigué, tellement épuisé qu'il n'y reviendrait pas. Tu l'as expliqué, hein, normalement, notre corps, il est bien fait, nos fonctions biologiques sont bien faites. Si on a un pancréas qui fonctionne bien, alors on a une glycémie qui est stable. On a une glycémie qui n'est plus stable, au moment où notre pancréas ne fonctionne plus tout seul et ne fonctionne plus bien.
Ouais.
Donc, je pense dans ta question, ce qu'on peut anticiper, bah, c'est l'histoire de la fatigue chronique ou c'est l'histoire du surentraînement. C'est-à-dire que effectivement, lorsque le corps n'arrive plus à revenir à un état au moins d'équilibre, je ne parle pas de surcompensation, hein, je parle d'un état d'équilibre, donc d'homéostasie, alors on peut parler de surentraînement. Le surentraînement, c'est caractérisé par le fait que la charge est tellement importante, elle est tellement trop, beaucoup trop supérieure aux ressources de l'individu pour l'empêcher en fait de revenir à son état d'équilibre. Et la problématique, c'est que on s'en aperçoit souvent trop tard. Parce que clairement, il y aurait des indicateurs, des marqueurs biologiques dans des prises de sang qu'on pourrait voir assez tôt, mais on n'est pas suivi comme des athlètes de haut niveau à faire des prises de sang très très régulièrement. Moi, c'est pour ça que malgré tout, c'est un conseil que je donne à tous les sportifs qui nous écoutent, c'est de faire un check-up une fois par an, même si le médecin vous le prescrit pas, etc. Faut pas hésiter à lui demander. Avec, il y a des petits indicateurs. Hein. Nous, on a des indicateurs qui sont importants pour nous, comme l'hémoglobine. Pour les femmes aussi, par exemple, le fer, parce que le fer est un moyen de transporter l'oxygène, donc c'est super important pour nous en tant que coureurs de fond. Il y a des marqueurs comme ça assez importants à contrôler au quotidien, mais dans l'année, et qui nous permettent d'avoir des indicateurs sur, bah, tiens, est-ce que là, je suis pas dans une surcharge, ou est-ce que, voilà. Après, il y a clairement des indicateurs que l'on connaît hein, pour caractériser le surentraînement, que sont une très grande fatigue, souvent une perte d'appétit, donc c'est souvent aussi corrélé à une perte de poids importante, une envie de dormir en permanence, des douleurs musculaires et articulaires chroniques. Ça, c'est des indicateurs qui doivent vraiment nous alerter et qui doivent. Et puis aussi l'impossibilité d'aller s'entraîner, tout simplement, le fait de commencer une séance et d'avoir déjà l'impression que on est sur la fin et que c'est pas possible de tenir quoi. Donc c'est une très très bonne remarque et c'est bien aussi de mettre en garde. Sur ce phénomène de surcompensation, de surentraînement, pardon, qui peut poser souci et qui, à nouveau, est détecté souvent beaucoup trop tard, malheureusement. Et c'est pour la raison pour laquelle on met beaucoup de temps à derrière récupérer, alors que si on s'en rend compte très vite, ça peut être une petite pause temporaire.
C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est vrai qu'on a fait, j'ai fait deux épisodes sur le REDES et sur l'aménorrhée. Qui sont des marqueurs hein, qui sont très importants et on se rend compte des conséquences vieillissement du corps vieillissement de l'ensemble et puis de la fatigue les blessures fractures de fatigue je rappelle aussi que les hommes sont touchés par le REDES donc c'est de l'épuisement et qui vient des fois pas seulement du volume comme l'avait très bien expliqué Lisa qui vient pas que du volume mais qui vient des fois de l'alimentation bah justement que ces équilibres là en fait le corps n'arrive pas à les faire. Parce qu'il y a un moment donné, soit il y a trop de dépenses, soit il n'y a pas assez de rentrée d'énergie, soit il y a un truc qui en tout cas s'équilibre pas. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on parle vraiment de cette notion d'homéostasie, parce que c'est finalement le base du fonctionnement de notre corps, mais et plus largement du corps, j'ai envie de dire, de toute la planète.
Tout à fait. C'est ça. Non, mais le REDES dont tu parles, c'est clairement un déficit énergétique. C'est un déséquilibre énergétique. C'est-à-dire que il y a des entrées qui sont inférieures aux sorties. Enfin, on dépense beaucoup plus d'énergie qu'on en consomme. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne s'est pas posé la question. J'ai adoré, moi, cet épisode sur REDES parce que passionnant. On ne s'est pas posé la question pour les hommes encore. On voit des hommes avec 4, 5, 6, 7, 8% de masse grasse et on ne se pose pas de questions. Et au final, moi, ça fait quelques années maintenant que je, parce que moi-même, j'ai souffert de ce genre de truc, parce que c'est normal, quand on est sportif, qu'on est à fond et qu'on fait plein de sport tout le temps, ben, en fait, on s'en rend pas compte, mais on ingère beaucoup moins de calories que ce qu'on devrait en avoir. Mais quand on est un homme, on s'en rend pas compte. Parce que, comme le disait effectivement très bien Lisa, y a pas, on n'a pas de règles ou d'aménorrhées. Donc, effectivement, mais je pense qu'il y a plein d'hommes qui souffrent de ce type de choses. Aussi des hommes pour lesquels on voit des fractures de fatigue apparaître chez certains hommes et en fait, on le découvre trop tard, alors qu'il y aurait eu des indicateurs en amont d'épuisement des ressources. Parce qu'une nouvelle fois, la fracture de fatigue, c'est une fausse aiguë et donc c'est dû à une mauvaise calcification des os. Et donc, c'est le fait que les cellules, elles se régénèrent plus par elles-mêmes parce que le corps, il a besoin de régénérer d'autres fonctions que les os, quoi. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est passionnant et qui est, comme tu dis, à la base de beaucoup de choses dans le monde de l'entraînement. Et c'est des questions qu'il faut qu'on, sur lesquelles il faut qu'on soit un peu des lanceurs d'alerte. C'est aussi un peu notre mission dans le cadre de ce podcast pour rappeler que c'est pas juste des faits isolés. C'est vraiment des problématiques qui peuvent toucher beaucoup de monde. Et que même quand on est un homme et qu'on commence à avoir des taux de masse grasse très, très faibles, bah, il faut peut-être se poser la question. Malheureusement, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été menées sur une efficacité d'un homme à 6% de masse grasse par rapport à peut-être 10 ou 12 ou 15 pour un même homme, hein, pour une même personne, je parle. Parce qu'on considère encore malheureusement trop aujourd'hui que le pourcentage de masse grasse est associé à la performance. C'est dommage.
Ça sera un très, très grand sujet. C'est un sujet qu'on abordera un jour, mais parce que moi, quand je vois ces cyclistes qui n'ont plus rien sur le corps et tout, qui ont des pourcentages. Moi, tu sais, des fois, je dis souvent la blague. Je dis souvent que je suis enrichi en matière grasse. Mais je suis bien content, des fois, de temps en temps, parce que.
J'aime bien cette blague, elle est drôle.
Je me dis, des fois, je préfère être enrichi à 20% qu'être vraiment trop allégé à 5%, parce que la bonne santé, c'est pas possible d'être en bonne santé avec aussi peu, parce qu'il y aurait plein de raisons, on en parlera aussi, mais dans l'équilibre du corps, le corps, il a besoin de certaines choses. On peut pas se priver de glucose, on peut pas se priver de tout un tas de trucs qu'on mange, qu'on ingère, qui fait notre vie. Faut quand même rappeler que le cerveau a besoin de sucre, hein, il fonctionne avec ça. Donc à un moment donné, si on n'en met pas, et ben les équilibres ne se font pas. Donc c'est là aussi toutes ces notions d'équilibre dont on reparlera, hein, on va en parler régulièrement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'homéostasie ou est-ce que là, maintenant, là, je peux clôturer cette première minute perf?
Oui, bah juste par rapport à ce que tu expliquais sur ce gras, notamment dont tu parles, on sait aujourd'hui que les cellules graisseuses, elles interviennent dans l'équilibre de notre corps.
Ouais.
Parce que les cellules graisseuses, non seulement elles libèrent des hormones, donc elles sont les précurseurs de certaines hormones, elles régulent certaines hormones, mais aussi elles captent, semblerait-il, des métaux lourds ou ce genre de choses. Donc elles sont très importantes pour notre corps. Et donc, tel que tu le dis très bien, effectivement, peut-être qu'il vaut mieux être un peu enrichi en matière grasse que de manquer de matière grasse pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard, hein, si la morphologie féminine, si le cycle biologique féminin ne fonctionne pas en dessous de certains pourcentages de matière grasse, c'est pas anodin. Le corps est bien fait. Nous, les femmes, on a la chance d'avoir cet indicateur de est-ce qu'on est en suffisamment bonne santé pour donner la vie. Je pense que malheureusement, la nature nous renvoie des signes aussi qu'il faut parfois écouter. Voilà.
Ouais, même si le marketing a eu tendance à dire que certains de ces signes ne sont pas très bons pour l'image, etc. Je pense à la cellulite, hein, notamment, en disant mais oui, mais il y a un moment donné, il faut se rappeler qu'il y a. On pourrait en faire un sujet, mais il y a quelques décennies, la cellulite n'était pas un problème parce que les magazines ne s'étaient pas encore intéressés à ça, mais que pourtant, elle était déjà là. Hein. Donc, c'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène naturel. Et comme tu l'as dit, ça fait partie de l'équilibre, mais c'est un vaste sujet. Tu sais quoi, on mettra sur notre liste, en fait, de notre histoire de graisse, parce que je pense qu'il y a gras et gras. Hein. Il y a différents types de graisse, déjà. Il y en a qui sont incrustées à des endroits où on voudrait pas trop qu'elles soient incrustées. Il y en a qui sont plus dangereuses pour la santé que d'autres. On en a besoin. Il y a tout un tas de choses comme ça. Mais écoute, moi, j'ai appris plein de trucs. Ah, je suis sûr que tout le monde a appris plein de trucs. Laure, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin quand même sur cette histoire d'homéostasie. Si tu as un petit dernier truc à rajouter comme ça.
Bah écoute, merci Bertrand, c'est gentil. Non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter à part que simplement, peut-être en conclusion, enfin, moi, j'aime bien dédramatiser et déculpabiliser. Je pense que c'est très important. On vit dans une société dans laquelle on est sans cesse culpabilisé de pas bien faire ci ou de pas bien faire ça ou et moi je crois que bien justement cet épisode il nous permet de comprendre que en fait finalement le but c'est de trouver notre propre équilibre à chacun. On a tous des modes de vie différents, on fait tous des choses différentes. Je t'entends souvent dire que ton entourage ne comprend pas le fait que tu cours tous les jours. Le fait de courir tous les jours pour toi fait partie de ton équilibre. Donc écoutons-nous, écoutons nos équilibres, écoutons ce que notre corps nous dit en termes d'équilibre ou pas. Et je pense que c'est ça le plus important, d'être dans cette zone entre guillemets de confort pour nous-mêmes, d'équilibre pour nous-mêmes. Et ça, je pense que ça fait du bien aussi de se dire que bah ouais, on fait tous les choses bien, on essaye tous de bien faire les choses et que notre corps finalement derrière il nous dit merci.
Eh bien écoute, merci beaucoup pour ce message positif. Moi j'aime bien qu'on finisse sur positif. Pour devenir de toute façon champion du monde de notre monde, des vieillards galopants, etc. Il faut qu'on trouve cette forme d'équilibre parce que je dis ça dans un livre. Quand on vieillit, on peut perdre des compétences, on peut perdre des capacités physiques. On en parlera de ça, tiens, un jour, on mettra dans la liste des sujets. Mais il y a un truc qui nous fait perdre beaucoup.
C'est
l'épuisement, l'épuisement, la blessure, l'arrêt long, etc. C'est ce qui fait perdre beaucoup plus vite des capacités que ce vieillissement naturel, qui est totalement naturel, c'est normal qu'on vieillisse, etc. Mais tant qu'on arrive à maintenir suffisamment les équilibres pour pas se blesser, pour pas rentrer dans les surentraînements, dans les surfatigues, dans les épuisements, dans les blessures et tout ça, bah finalement, la réduction de capacité, elle est relativement faible et on peut encore progresser. J'ai vu hier dans un livre que même après 100 ans, ils ont réussi à faire progresser. Tu sais, c'était le papy qui faisait du vélo, là, Robert Marchand, qui avait battu le record du monde.
Et ben justement, c'est Véronique Billat qui l'a entraîné, tu vois. Ouais. Donc, tout à l'heure, je parlais de Véronique Billat. Bah, c'est justement elle qui a mis au point le protocole pour que Robert Marchand passe le record du monde du nombre de kilomètres à l'heure. Exactement, exactement.
Il avait gagné 2 km heure hein, sur son record. C'est un truc après 100 ans quand même. Donc, ce qui montre qu'on peut, mais que s'il avait été arrêté par une blessure, là, c'était totalement fini. Il n'y avait plus moyen de progresser, de retrouver ce niveau-là. Et c'est pour ça que l'équilibre dont tu as parlé est si important. Eh bien, écoute, je crois qu'on a tout dit. La minute perf était plus longue qu'une minute, mais c'est vraiment un petit clin d'œil. Mais là, c'était vrai. Et puis, c'était important qu'on s'y attarde un peu dessus. Parce que je crois que c'est vraiment un sujet et qui sera, on l'a dit, hein, ça sera vraiment un épisode référence, c'est-à-dire qu'il y a plein d'épisodes auxquels on va faire référence. On va pas toujours réexpliquer tous les mêmes principes. Celui-là, vous le gardez en stock, vous prenez quelques notes. S'il y a besoin de prendre des notes, vous prenez des notes, vous envoyez un petit message à Laure si vous n'avez pas tout compris. Moi, j'ai à peu près tout compris, mais voilà. Non, mais tu étais très clair.
Avec grand plaisir pour répondre au message. Avec grand plaisir.
Et bien sûr, je mets le lien vers ton site pour te contacter s'il y a besoin. Et puis, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer sur ces minutes perf, pour continuer à voir quels sont les différents facteurs de performance, comment on peut avancer sur l'un, sur l'autre, puis faire des zooms, des rebonds par rapport à nos épisodes. Aussi un petit peu l'actualité, un petit peu aussi les saisons qui changent, qui passent, comment on gère tout ça. Bah, écoute, c'était un plaisir, hein, vraiment. Moi, je sens qu'on va se régaler si on fait toutes les minutes perf comme ça.
Plaisir partagé, Bertrand. Ouais, moi aussi.
Et puis, on se retrouve, bien sûr, à notre épisode de Kilomètre 42 qui arrive mercredi. Mon conseil du samedi et puis la semaine prochaine, et ben écoute, c'est reparti pour une nouvelle minute perf. Merci beaucoup Laure.
Merci Bertrand, merci à toi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.